France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Agathe Lambret.
Bonsoir à tous. Censure, résistance, les cris de colère des insoumis ont résonné ce matin à Paris lors d'un rassemblement en signe de protestation. Protestation après les convocations de Rima Hassan et Mathilde Panot. Les insoumis sont-ils des martyrs de la liberté d'expression? Cette colère est-elle légitime ou en font-ils trop? Haro sur les écrans pour les tout-petits. Un rapport préconise leur interdiction pour les moins de 3 ans et alerte sur leurs conséquences sur la santé des enfants. Les écrans, le mal incarné pour nos tout-petits. Mais les experts peuvent-ils s'inviter dans les appartements? Et puis, des rémunérations stratosphériques, des écarts de salaire indécents. Le dernier rapport d'Oxfam révèle que les patrons du CAC 40 ont gagné en moyenne 130 fois plus que leurs salariés en 2022. Est-ce légitime quand on dirige une entreprise mondiale ou faut-il s'en offusquer? Faut-il encadrer ces salaires? On en parle avec nos informés ce soir, Mickaël Darmon, éditorialiste à I24 News. Vous publiez Le Pape et la Matriarche aux éditions Passé Composé. Laurent Mouloud, rédacteur en chef adjoint à l'Humanité. Stéphane Zumsteg, directeur du département Opinion et Politique d'Ipsos. Et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d'Atlantico. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Veut-on museler la France insoumise après les convocations de Rima Hassan et Mathilde Panot ce matin, entendu pour apologie du terrorisme? Les insoumis appelaient au rassemblement contre la censure dans la foulée et le débat s'est prolongé ensuite à l'Assemblée. Écoutez cet échange houleux entre Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, et Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux.
Dans un pays que vous connaissez bien, on convoque la présidente d'un groupe parlementaire d'opposition devant la police antiterroriste pour un communiqué de presse. On menace et on réprime des étudiants qui s'indignent face à un massacre terrifiant. On tente de dissoudre un collectif de jeunes qui se mobilisent face à l'urgence climatique. Est-ce dans la Russie de Vladimir Poutine? Non, c'est dans la France d'Emmanuel Macron.
On va se dire les choses très clairement, monsieur le député Bompard. Après le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas que vous soutenez, j'ai pris une circulaire pour que l'on puisse réprimer les propos antisémites qui se sont développés. J'ai eu raison de le faire. Des gens qui se sont sentis victimes ont déposé plainte. La justice a donc été saisie et elle dira ce qu'elle a à dire. En toute
Manuel Bompard qui compare la France à la Russie. Laurent Mouloud, la colère des insoumis, elle est légitime ou ils en font trop là?
Ben, je ne sais pas s'ils en font trop. Moi, c'est surtout le terme là. C'est le ministre, je crois, qui parlait. Attaque terroriste que vous soutenez. C'est le terme du ministre de la Justice, semble-t-il, qu'en répondant à Emmanuel Bompard, je trouve que pour le coup,
c'est cela qui vous choque.
Extrêmement excessif, extrêmement disproportionné. Et je trouve que tout dans cette histoire est disproportionné.
Attaque terroriste du Hamas, les insoumis ont fait polémique après cette attaque terroriste qu'ils avaient qualifiée d'offensive des forces armées palestiniennes.
Tout à fait, mais...
Et la classe politique dans son ensemble avait condamné le fait que c'était pas assez...
Tout à fait, mais qu'on puisse critiquer ce communiqué, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qu'on dit que vous soutenez, et c'est des propos qui viennent de dire une attaque terroriste que vous soutenez, le terme sont importants. Il ne s'agit pas d'un soutien à une attaque terroriste. Un communiqué, il peut être effectivement complètement... peut-être mal écrit, critiqué, etc. Et la justice le dira. Moi, les termes que j'entends soutenir une attaque, c'est quand même extrêmement grave, je trouve, aussi dans un autre sens. Donc je dirais que moi, dans cette affaire, il y a une espèce de disproportion de poursuivre comme ça, effectivement, des personnages publics, politiques, en pleine campagne électorale, aussi de laisser faire, on va dire, des convocations devant la justice, au commissariat, sur cette question d'apologie du terrorisme. Je trouve ça complètement disproportionné.
Je vous vois opiner de la tête Mickaël Darmon. Donc, si on écoute Laurent Mouloud, c'est vrai, il y a une dérive autoritaire de ce gouvernement?
Non, il n'y a pas une dérive autoritaire. Il y a tout simplement le fait qu'effectivement, on respecte l'état de droit et les lois qui existent, puisque la justice a été saisie. Donc, l'affaire est instruite. Mais enfin, je note quand même que pour crier à la censure, au fond, les protagonistes de cette affaire du côté de LFI sont ressortis libres, ne sont pas emprisonnés, peuvent continuer à dire ce qu'elles veulent. Emmanuel Bompard peut se lever et critiquer le gouvernement de l'Assemblée nationale. nationale. Donc on est effectivement dans un théâtre qui n'est pas celui qui est dénoncé. En revanche, je trouve que Manuel Bompard doit remercier au fond le pouvoir, parce que il met en lumière, je dirais, il met sur la sellette, il désigne comme ennemi dans ce moment de campagne électorale LFI, ce qui est quand même un cadeau.
Vous voulez dire qu'il leur rend service parce qu'il les victimise?
La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Mathilde Panot et Rima Hassan sont-elles convoquées avec force, scénographie dramatique, pour pouvoir répondre éventuellement de délits sur l'apologie du terrorisme. On est quand même en pleine campagne électorale. De qui ne parle-t-on plus depuis quelques jours? On ne parle plus de la droite, on ne parle plus de la gauche, on ne parle plus de la liste de la gauche. On parle uniquement des insoumis qui, au fond, peuvent permettre aussi de jaillir sur et d'être présent sur le terrain de cette campagne. Donc je pense qu'il y a quand même une forme d'instrumentalisation à double niveau, parce qu'effectivement, quelque part, on voit bien que l'Iran s'amuse aussi à bien manipuler les étudiants à Sciences Po et ceux qui soutiennent le Hamas, parce qu'effectivement, il y a quand même un soutien. Mais il y a aussi une instrumentalisation du pouvoir qui sertit, quelque part, je trouve, une colère bien appropriée.
Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes d'accord? Finalement, ça dessert l'exécutif, toute cette agitation, cette judiciarisation autour des insoumis. Il faut rappeler qu'il y a eu aussi des conférences de Jean-Luc Mélenchon qui ont été annulées. Une ministre qui porte plainte contre Jean-Luc Mélenchon, qui avait comparé un président d'université à un nazi. Est-ce que tout cela, finalement, c'est pas contre-productif pour ceux qui veulent combattre les insoumis?
Mais je crois qu'il faut distinguer les cas. Il y a des procédures, des plaintes qui ont été déposées, des convocations qui se font dans le cadre de ces plaintes-là. Après, il y a des décisions effectivement prises par les autorités de l'État. Enfin, même si ce sont des préfets, on imagine mal sur des événements. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Moi, je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron avait pu dire « il faut que chacun puisse s'exprimer » et le préfet du Nord derrière qui prend une décision d'interdiction. Je ne crois pas une seconde que le préfet ait pris cette décision-là sans en avoir référé à minima au ministère de l'Intérieur. Donc oui, il y a une double instrumentalisation. Ce sont les insoumis qui ont mis en scène leur convocation. Ce n'est pas le parquet qui a communiqué sur la convocation des insoumis. Mais je crois effectivement que cette judiciarisation du débat politique est profondément toxique. Il faut que la parole politique puisse être libre pour que eux puissent dire effectivement ce qu'ils veulent, même si c'est choquant, même si c'est parfois insoutenable, mais pour qu'on puisse aussi répondre, parce que le piège est là, qu'on puisse aussi répondre non, peu importe que la justice vous blanchisse ou non, vous êtes dans l'ambiguïté vis-à-vis de l'antisémitisme et dans une forme d'ambiguïté vis-à-vis du Hamas. Et donc cette liberté d'expression, elle me semble absolument majeure. Il faut la défendre, parce que de toute façon, on ne sauve jamais la démocratie avec des juges. Mais après, sur le côté ridicule de hurler au régime autoritaire, regardez ce qui se passe dans les États arabes. Il y a des manifestations dans les États arabes. En Jordanie, il y a eu plus de 1500 arrestations. Il y a des gens qui sont en prison au Maroc. Il y a des gens qui sont en prison. Ça se compte par centaines en Égypte.
Oui, on parle de mots qui sont lourds de sens.
Non mais voilà.
Et parfois on se demande s'ils ont encore du sens.
Mais soyons sérieux. Quand Rima Hassan, on a l'impression que quasiment elle est prisonnière politique et ce matin elle sort de sa convocation en disant tout s'est bien passé, j'ai envie de lui dire choisis ton camp. Hein. Parce que soit on est dans un régime autoritaire, soit tout s'est bien passé. Mais les deux sont pas compatibles, il faut être cohérent.
20h, 21h, les informés. Agathe Lambray.
Toujours en compagnie de Mickaël Darmon, éditorialiste à I24 News, Laurent Mouloud, rédacteur en chef adjoint à l'Humanité, Stéphane Zumsteg, directeur du département Opinion et Politique d'Ipsos, et puis Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d'Atlantico. On parlait des insoumis, on peut s'interroger sur la méthode des insoumis. Je voudrais que vous écoutiez l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka.
Moi, ce qui me choque, c'est que il y a un appel à aller manifester de la part d'une députée avec son écharpe devant le palais de justice.
Ça, c'est plus
ça,
choquant.
C'est un problème.
C'est quoi?
C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est un non-respect de l'institution judiciaire, de la séparation des pouvoirs. On n'a jamais vu ça.
Stéphane Zumsteg, les insoumis, ils portent atteinte à la séparation des pouvoirs en faisant ça?
Non, probablement pas. Je pense que c'est très exagéré aussi. Après, pour se poser la question de savoir si finalement cette victimisation, ce sentiment d'être victime d'un déni de justice va marquer l'opinion publique, je ne pense pas, parce que les Français et les Françaises sont habitués systématiquement à ce que quand un homme politique ou une femme politique ou un parti politique est incriminé par la la justice. De toute façon, il crie systématiquement au déni de justice. Regardez Nicolas Sarkozy qui a fait ça pendant des années. Donc, ça n'aura sans doute pas d'impact. Ça n'est
parfois,
pas lié.
Parfois, ça les renforce, mais pour l'instant, dans les sondages, les insoumis aux européennes, ils sont pas très en forme.
Mais c'est aussi un choix parce que là, on peut revenir à la stratégie qui a été choisie de conflictualité de la France insoumise. L'idée, elle est très claire. C'est cliver, cliver, cliver. Vous l'évoquiez tout à l'heure. La France insoumise aujourd'hui, la liste de Manon Aubry se trouve dans un contexte préélectoral très défavorable. La NUPES n'existe plus. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a fait 22% et a échoué à l'élection présidentielle et a échoué de uniquement 400 000 voix pour accéder au second tour. Aujourd'hui, sa liste, la liste de Manon Aubry, est créditée d'un score décevant. Mais c'est traditionnel pour la France insoumise aux élections européennes. Là, l'idée, c'est que je ne pense pas qu'ils ont...
Il veut engendrer les européennes, Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon a été très clair. Lors du meeting de lancement de la liste de Manon Aubry, il explique que c'est le début de la campagne pour l'élection présidentielle. Bien sûr qu'ils savent déjà que leur score, quel qu'il soit, sera probablement décevant. En revanche, il y a quand même cette idée de construire l'après et d'assumer finalement que les réservoirs de voix de la France insoumise ou de Jean-Luc Mélenchon se trouvent auprès de la jeunesse ou d'une partie de la jeunesse et dans certains quartiers là où il y a beaucoup de musulmans. Je doute de l'efficacité, en tout cas pour les élections européennes, de cette stratégie parce qu'il s'agit de populations qui en général s'abstiennent beaucoup, notamment aux élections européennes.
Michel Darmon, vous voulez réagir ?
Oui, il est clair que Jean-Luc Mélenchon a décidé qu'il voudra être encore candidat à l'élection présidentielle et il tente de faire le lien entre les, on va dire, les bobos wokistes qui peuvent se retrouver sur les campus et en particulier à Sciences Po avec les quartiers populaires où le vote donc communautariste, musulman, pro-musulman peut s'affirmer et s'est affirmé. Mais de ce point de vue-là, on voit bien qu'effectivement, ça n'est pas pour l'instant susceptible d'être, je dirais, générateur de rassemblement à gauche. Il faudra très certainement s'attendre à des soubresauts au lendemain du 9 juin, au lendemain du scrutin européen, où très certainement il y aura donc des bruits, des voix qui vont s'élever maintenant au sein de LFI, qui vont vouloir régler les comptes et montrer que cette stratégie n'est pas du tout efficace et même se démarquer très clairement de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'on entend de plus en plus dans les coulisses.
Manuel Valls, ancien Premier ministre, rappelait d'ailleurs à former un cordon sanitaire autour de Jean-Luc Mélenchon. Laurent Mouloud, les Insoumis, ils sont aussi en première ligne, donc pour soutenir les étudiants pro-palestiniens à Sciences Po. Et Rima Hassan, qui est candidate aux européennes pour la France Insoumise, a appelé au soulèvement et elle assume ce terme. Est-ce que c'est normal qu'une candidate à des élections appelle au soulèvement ?
Je ne sais pas si appelée au soulèvement, en tout cas, elle appelle à une résistance, en fait, et à un soutien. Oui, non, mais c'est peut-être le terme de soulèvement aussi.
Mais une résistance contre quoi ?
Une résistance aussi pour le soutien. Il y a quand même quelque chose qui sort aussi du débat public, c'est la notion de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Il y a depuis plusieurs jours, et tout tourne autour, effectivement, des accusations autour de la France insoumise. On a l'impression que ce qui se passe, et le drame qui se passe à Gaza, avec quasiment 35 000 morts, n'existe plus dans le paysage médiatique. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui à Sciences Po, ce sont aussi des étudiants qui ne veulent pas que ce débat-là et l'attitude du pouvoir israélien soient passés sous le boisseau, soient tués. Et c'est cette résistance-là à laquelle Rima Hassan aussi appelle, tout simplement, sans arrière-pensée antisémite, disqualifiante évidemment dans le débat public.
Vous êtes d'accord, Jean-Sébastien Ferjou, parce que je vous entendais réagir.
Je ne sais pas rentrer dans les arrière-pensées de Rima Hassan, mais enfin, je pense qu'elle a montré suffisamment d'ambiguïté vis-à-vis de l'existence même d'Israël pour qu'on puisse en douter. Et maintenant, je pense qu'il ne faut pas évidemment criminaliser le soutien à la cause palestinienne. Et il n'est pas tu. C'est d'ailleurs complètement absurde dans les revendications des étudiants de Sciences Po de vouloir rompre, par exemple, les liens avec les universités israéliennes, qui bien souvent en Israël sont les lieux où il y a le plus d'opposants à la politique de Benjamin Netanyahou. Je n'entends pas non plus les étudiants de Sciences Po réclamer la rupture des liens de Sciences Po avec le Qatar, hein, dans un même registre, ni d'ailleurs avec d'autres États. Donc quand même, il y a une obsession par rapport au caractère juif d'Israël. Je pense que personne ne peut soutenir l'inverse. Les Nations Unies ont alerté sur le fait qu'il y avait un risque de entre 500 000 et 1 million de morts au Soudan, de morts de faim à court terme. Est-ce que quelqu'un en parle ? Donc, je vous dis pas ça. Il s'agit pas de minimiser ce qui se passe à Gaza. C'est une tragédie pour les civils palestiniens. En revanche, moi, je conteste totalement la rhétorique et celle de Rima Hassan et celle des leaders des étudiants, pas de tous les étudiants eux-mêmes. Certainement, beaucoup sont de bonne foi. Mais la rhétorique qui consiste à dire que c'est un soutien, non. Il y a d'autres manières de vouloir faire pression sur la situation. On peut aussi demander des comptes. Évidemment qu'on peut demander des comptes en Israël, mais en Israël, vous savez, il y a des procédures qui sont ouvertes pour crimes de guerre. Est-ce que vous avez entendu parler de procédures ouvertes pour crimes de guerre à Gaza ? Est-ce que le Hamas va un jour aller poursuivre des gens pour crimes de guerre ? Vous voyez bien que le simple fait de poser la question montre à quel point tout ça est absurde. On ne fait pas pression non plus, je vous le disais, tirer sur le Qatar. Le Qatar est impliqué pourtant dans les négociations sur les otages. Le Qatar paye les salaires des fonctionnaires de Gaza. Donc pourquoi se préoccuper seulement d'Israël? Le sujet n'est pas de vouloir faire pression sur Israël. Ça, ça peut se comprendre. Le sujet est de le faire exclusivement sur Israël en employant le mot que je trouve extrêmement choquant de génocide. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de génocide? Derrière l'idée de génocide, il y a l'idée, c'est le mal absolu. Et donc le mal absolu, qu'est-ce qu'on fait? On l'éradique. Et donc derrière, on est en train de dire qu'on élimine Israël. Voilà, appelons un chat un chat.
Oui, en fait, les inversions de propos, ils sont effectivement à l'œuvre depuis le terme, depuis quelques jours après le 7 octobre. On a d'abord été sidéré, on a rendu hommage aux Israéliens qui étaient plutôt dans mauvaise posture. Mais quand les Israéliens se sont mis à répondre, alors là, on a tout de suite demandé, exigé de la retenue immédiatement et de pouvoir retenir cette force-là. Moi, ce qui me frappe surtout dans cette affaire de Sciences Po, c'est un peu la vacuité géopolitique des étudiants qui ne connaissent rien de la carte et des évolutions du Proche-Orient, parce qu'au fond, soutenir la cause palestinienne, c'est pas illégitime. Redemander de revitaliser les accords d'Oslo, qui était une négociation avec Yasser Arafat, le Fatah de Yasser Arafat, c'était absolument légitime. C'était d'ailleurs une très belle période.
Pourquoi ils ne connaissent rien?
Parce qu'en fait, ils sont pris dans cette instrumentalisée par une rhétorique, comme l'a dit effectivement Jean-Sébastien, qui les aveugle complètement. Alors, que la gauche soit aveuglée historiquement, on s'en souvient, ça peut arriver. Sartre soutenait bien l'URSS pendant un temps.
Et Michel Foucault, la révolution islamique iranienne.
On a soutenu les maoïstes. Donc, quelque part,
on
peut se dire que c'est une erreur, un moment de jeunesse, une période de jeunesse. Je pense que c'est un peu plus profond que ça. Mais ce qui me frappe, c'est à quel point, au fond, c'est vrai, on ne demande pas des comptes au Hamas d'avoir été capable de rendre aussi, avant le 7 octobre, une population aussi malheureuse depuis 20 ans.